Et donc, je vous propose de reprendre nos travaux par le début et, en l'occurrence, peut-être de donner la parole, Jean-Noël, pour que tu nous présentes le PCAET.
Plan climat, vous m'entendez ? Oui. Plan climat, air, énergie, territoriale. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, présentation du PCAET à travers un diaporama qui va vous être présenté. Qu'est-ce que c'est qu'un PCAET ? On va le réexpliquer, les enjeux, la démarche qui a été établie, une démarche également de labellisation avec Citergie, nous en reparlerons, le diagnostic, les vulnérabilités, les stratégies et les prochaines étapes. Alors je commence d'abord par vous dire bien sûr que le PCAET, c'est une démarche qui est obligatoire, qui est réglementaire. Tous les EPCI l'ont fait, c'est un outil de planification. La révision de notre PCAET a été faite, il nous reste à avoir des avis, l'avis de l'État, l'avis du public, et puis ensuite cela repassera auprès de nous tous lors d'un conseil communautaire en 2021. Donc on rentre après ce qui a été fait au niveau de la révision, on rentre dans un plan d'action. Certaines actions dont on va parler tout à l'heure ont déjà été engagées, certaines sont plus ou moins avancées, certaines seront à réajuster. Les enjeux, ça tient en deux lignes. Réduire les gaz à effet de serre, on a deux leviers, on consomme moins d'énergie et on produit plus d'énergie renouvelable. Avec des objectifs et des pourcentages à atteindre, on devra consommer moins d'énergie avec exactement un objectif de moins 20% pour 2030. Et on devra essayer de produire plus d'énergie renouvelable. Actuellement, Vitré Communauté produit 11% de ses besoins. Et notre objectif est d'atteindre les 31% de ses besoins, en sachant que l'objectif national est à 32%. On expliquera tout à l'heure dans la présentation pourquoi nos objectifs ne sont pas toujours les nationaux, parce que nous sommes dans un territoire particulier que vous connaissez bien, qui est très industriel et très agricole. Voilà, l'intérêt d'un PCAET, c'est évidemment également de mobiliser tous les acteurs, la collectivité que nous sommes, tous les élus que vous êtes, et également des acteurs du monde agricole et du monde industriel. On pourra en reparler. Concernant le monde industriel, cette semaine, nous avons rencontré une association qui s'appelle Éveil, qui est une association donc, qui a été montée par des directeurs des ressources humaines en particulier ou des directeurs d'entreprise et qui a mis en place il y a quelques semaines, vous en avez entendu parler, un challenge, le challenge mobilité. Voilà. Donc ce lien avec le monde de l'entreprise est également important pour nous. L'idée d'un PCAET, c'est d'embarquer évidemment tout le monde et vous en premier, bien sûr, les élus. Alors, pour arriver à ces résultats, je vais ensuite parler de la première diapo, mais pour arriver à ces résultats, c'est la démarche, la première diapo. Il faut qu'on se dise une chose très simple, mais très vraie, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire que des petites choses. C'est important. C'est important, les petites choses. C'est important de bien trier, c'est important d'éteindre ses lumières, etc., bien sûr. Mais quand on veut changer d'échelle, ça ne suffira pas, évidemment. Donc, quand on veut changer d'échelle, on fait des programmes structurants. Et les programmes structurants, ce sont ceux qui vont nous permettre de passer de 11% à 30%. Et par exemple, un programme structurant, c'est un parc éolien. Parce qu'un parc éolien, ça rapporte en pourcentage de 1,5% à 2%. Je prends cet exemple parce qu'il est très fort. Si on veut arriver à 30%, il va falloir en faire sans doute plusieurs dans les années qui viennent. Le photovoltaïque, c'est la même chose. Le photovoltaïque, il faudra en faire. On a la chance d'avoir une loi qui s'appelle donc la loi énergie-climat, qui a été votée en 2019, qui oblige les collectivités qui ont des zones économiques, quand elles mettent des nouveaux bâtiments, on est obligé de mettre sur les toitures au moins 30% de panneaux photovoltaïques. La question qu'on devra se poser tous, c'est de savoir est-ce qu'on respecte la loi, évidemment, mais est-ce qu'on va encore plus loin ? Ces sons sont étalés jusqu'à 70%. Donc c'est par ces projets massifs qu'on arrivera à rentrer dans les objectifs que nous nous sommes donnés. Mais le photovoltaïque, je prends un exemple, 600 mètres carrés de toiture, bon, c'est un bâtiment, on va dire, une petite salle de sport, ça rapporte 0,1%. Donc il va falloir quand même beaucoup, beaucoup de bâtiments ou beaucoup de bâtiments qui soient de la collectivité ou de l'entreprise. Donc également accompagner tout ce qui va être réseau de chaleur, je vais en parler tout de suite. On en a déjà avec le SMICTOM sur la route des eaux. On a parlé de la piscine de la Guerche il y a quelques semaines. Il y a également un projet à Châtillon en Vendelais. Également des unités de méthanisation. Alors ça, c'est un projet qui est en vogue. Il y a beaucoup de projets qui vont voir le jour certainement dans les années qui viennent. Savoir où on place notre curseur. Parce que je l'ai déjà dit il y a quelques jours, je le répète, quand on est dans la transition écologique, on est clairement en train de placer un curseur, parce que rien n'est parfait. Une éolienne, ça ne peut pas être parfait avec les milliers de tonnes de béton qu'il y a à ses pieds, et en même temps, c'est une énergie extrêmement propre. Un panneau voltaïque, ça ne peut pas être complètement bien, parce qu'on le fait venir de très loin, il y a une empreinte carbone, et on ne sait pas comment le recycler complètement, mais en même temps, ça dure 30 ans, et c'est le soleil. Donc voilà, il faut placer le curseur, on verra ça tout à l'heure à la fin. Ça sera vraiment à nous de le faire. Quand on sent que ça dépasse, que ça passe du mauvais côté, ben, je pense qu'il faut arrêter. Et ça touche particulièrement tout ce qui est biogaz et unité de méthanisation, puisque certaines, vous savez, sont à taille de ferme et sont, on va dire, véritablement circulaires, tandis que d'autres, voilà, sont, on va dire, un peu moins circulaires, parce qu'il y a des cultures vivrières qui sont mises dedans. Voilà, on est vraiment dans du business. Et ça va être à nous tous de décider où est-ce qu'on arrête le curseur pour les aides. Parce qu'on peut aider ces unités. On peut aider ces unités en mettant de l'argent, comme le font certains départements ou certaines collectivités. Voilà, des stations GNV, on pourra en parler, etc. En tout cas, la collectivité que nous sommes, elle a, première chose à être, c'est être exemplaire. Sur tout ce qu'on aura à faire, il faudra être exemplaire au niveau de la transition écologique. Et on a des leviers. Et les leviers, ben, pour moi, ils sont assez simples. C'est d'avoir du budget pour la transition écologique. Donc, j'attendrai votre soutien, bien sûr. Et ces budgets pour la transition écologique, on pourra également mettre des leviers forts sur, pourquoi pas, des appels d'offres. Ou quand on remplit un appel d'offres, on demande à ce qu'il y ait des critères donc, de transition écologique. Et la même chose pour les fonds de concours. Les fonds de concours, on en reparlera. Ça sera au moment du budget. Mais si on veut verdir nos fonds de concours, il y a deux possibilités. Soit on met un pourcentage pour dire que vous aurez le fonds de concours, soit on met un bonus. Si vous mettez de la transition écologique, vous aurez en plus quelque argent en plus pour votre projet. Voilà. Et aussi, la dernière chose, c'est accompagner les communes au mieux avec ce qu'on appelle l'ingénierie. L'ingénierie, ça va être, par exemple, le conseiller en énergie partagée, donc je vais reparler tout à l'heure, puisque nous avons eu la chance aujourd'hui, depuis le début de semaine, d'avoir une autre conseillère en énergie partagée qui est arrivée dans le service. Donc c'est une dame qui s'appelle Ragda Ekal, et cette dame, donc, elle va s'occuper particulièrement de vos communes, des 33 communes qui ont adhéré, tandis que M. Quentin Lebrigand, qui était déjà là, continuera à s'occuper, lui, de Vitré Communauté et de la ville de Vitré. Voilà, donc tout ça pour arriver à la première diapo, pour vous dire qu'il y a déjà eu de nombreuses réunions. Sur cette première diapo, je peux dire que la démarche, elle est expliquée avec de nombreuses réunions, des copiles, des ateliers, des validations. Je reviens sur les deux validations particulières et principales qui étaient celles du 24 juin 2019, validation PCAET plan d'action au bureau communautaire, donc le bureau des maires, et la validation à l'antépénultième ligne de décembre 2019, la validation du PCAET par le conseil communautaire. Donc avec, à chaque fois, quand même, du monde qui était présent, et peut-être certains d'entre vous déjà. Donc je passe à la diapo suivante pour vous réexpliquer que le PCAET doit nous permettre de construire une transition dans une période où il est possible d'anticiper. Il y a différents documents, dont on va parler très rapidement, un rapport diagnostique, rapport de vulnérabilité, une évaluation environnementale et, bien sûr, des plans d'action. Nous nous appuyons évidemment sur des lois, la loi de 2015 liée à la transition énergétique pour la croissance verte, des décrets de 2016, l'arrêté de 2016 également. Et je vous ai parlé tout de suite là, de la loi énergie-climat de 2019 qui va être très importante hein, puisque nous sommes Vitré Communauté, donc collectivité, aménageur et gestionnaire des parcs d'activité. Donc par rapport à cela, nous avons la possibilité de demander donc de mettre au moins 30% ou plus sur les toitures en panneaux photovoltaïques. Je poursuis avec les enjeux qui sont, voilà, on en a pris quelques-uns, ils sont très nombreux, mais réduire bien sûr la facture énergétique, développer la production des énergies, prendre en compte la modification du climat, impliquer tous les acteurs, intégrer des volets air, énergie, climat dans les documents de planification. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur, par exemple, pourquoi pas intégrer dans les cahiers des charges des critères écologiques, dans nos politiques publiques, et bien sûr poursuivre la mobilisation de tout le monde, des services et de nous tous. La diapo suivante présente la consommation énergétique du territoire. Donc elle est intéressante, c'est la phrase du milieu, consommation énergétique du territoire, donc 2288 gigawattheures. Bon, l'important, c'est le chiffre en euros, ça coûte donc 225 millions d'euros. À gauche, vous voyez que notre production à Vitré Communauté, c'est 15 millions d'euros. Et bien sûr, donc, nous importons, nous achetons à l'extérieur 210 millions d'euros d'énergie. Donc évidemment, c'est à nous d'essayer de relocaliser pour que cela nous coûte moins cher. Vous avez ensuite un fromage qui représente la répartition de la facture énergétique par secteur. Donc évidemment, vous voyez que les deux plus importants sont le transport routier à 38%, un territoire particulier avec beaucoup de transporteurs, et puis l'industrie, bien sûr, avec 24%, et le résidentiel, l'habitat, avec 25%. On voit donc que le tertiaire et l'agriculture ne sont pas des grands consommateurs. Je poursuis sur la diapositive suivante, qui est importante parce que c'est le sens même du PCAET avec la qualité de l'air. Donc là, vous avez un diagramme qui montre donc les différents polluants qui sont tous en baisse, sauf un petit peu. Donc le NH3, c'est l'ammoniac, bien sûr, qui augmente encore un petit peu. Donc l'objectif, il est bien sûr que ça baisse. Tout en bas, vous avez le dioxyde de soufre qui est présent dans les carburants, dans le fioul lourd particulièrement, donc qui baisse. Ça, c'était bien sûr la loi qui l'a obligé. Et puis vous avez les PM, PM10 et PM2,5. Ce sont des particules fines. Donc ces particules fines, quand c'est 10, c'est 10 microns. Quand c'est 2,5, c'est 2,5 microns. Bon, ça, bien sûr, c'est lié à la circulation et puis au chauffage. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand on est sur ce diagramme-là au niveau des particules fines, faut bien s'imaginer qu'être à la campagne ou être à la ville, ça ne change pas. Il faut raisonner en termes de masse d'air. Ça bouge sur tout notre territoire, bien sûr. Et puis, le dernier qui baisse également, c'est le COVNM, composé organique volatile. Donc, c'est tout ce qui va être colle ou aldéhyde. Donc ça, c'est dans les industries. Donc tout ça s'abaisse et on a des objectifs pour que ça diminue encore, bien sûr. Je poursuis sur les vulnérabilités, bien sûr. Alors, du point de vue climatique, demain, augmentation des températures, on le vit tous, même sur une courte vie, hein, en 20 ou 30 ans, on voit tous que si l'on va dans certaines stations de ski, il y a 30 ans, pour les plus âgés ou les plus jeunes d'entre nous, il y a moins de neige qu'avant. Ça, c'est certain. C'est assez incroyable de pouvoir vivre ça sur une seule vie, en réalité. Hein. Donc, il y a ça, on l'a vécu aussi depuis plusieurs années, bien sûr, les nombres de journées chaudes, avec des températures l'été que vous connaissez comme moi. Et puis, le nombre de jours de gel qui diminue. Alors, tout à l'heure, justement, je vous parlerai d'un point en délibération qui sera une étude sur des îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur par rapport à cette augmentation de la température. Les précipitations annuelles évolueront peu, semble-t-il, d'après les études, mais ce seront des pluies par à-coup, ce qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça qu'il y a des inondations plus fréquentes encore qu'avant. Et en plus, bien sûr, les sols s'assèchent de plus en plus marqués sur la période et en toute saison. Alors, les risques, ils sont avec cette carte, on les reconnaît, bien sûr, la carte avec les... Je crois que c'est rouge, c'est ça, ou rose. Donc, bien sûr, autour de la Vilaine, hein, vous voyez bien qu'entre Vitré et Châteaubourg. Donc, des risques d'inondation accrus sur Vitré et Châteaubourg, avec, bien sûr, pourtant, un paradoxe qui pourrait paraître un paradoxe, c'est l'allongement moyen des périodes de sol sec. Alors, c'est la même pluviométrie, mais avec des répartitions, on le vit nous aussi toujours, c'est avec des répartitions différentes. Situation de stress hydrique pour les animaux, donc là, bien sûr, en période de sécheresse, on voit ce que ça fait au niveau de la biodiversité. Et puis un impact aussi sur l'élevage, bien sûr, puisque nous, dans notre territoire, le maïs étant évidemment la culture qui est le plus à risque compte tenu des sécheresses estivales que nous vivons. Impact sur les ressources en eau. Donc, ce travail a été réalisé par l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne. Une baisse potentielle des débits de cours d'eau, diminution des zones humides. Il y a eu un bilan hydrique des sols également. Vulnérabilité élevée du bassin de la Vilaine. L'alimentation en eau potable. Nous avons un approvisionnement en eau potable, nous, qui repose sur nos plans d'eau et nos cours d'eau. Ailleurs, vous savez qu'en France, il y a du forage, mais nous, c'est vraiment nos plans d'eau. Donc ce sont des sources superficielles, rendant la ressource très dépendante du rythme des précipitations. Une capacité d'auto-épuration, possible dégradation de la qualité des eaux. Bien sûr, moins on a d'eau dans le cours d'eau, la dégradation est plus forte. Et enfin, tous les ouvrages d'assainissement doivent être mis hors d'eau, craignant des épisodes d'inondation. Alors, j'arrive donc à la diapo concernant les objectifs principaux du PCAET. Voilà, notre territoire est particulier, comme je le disais. Voilà quatre grands points et quatre objectifs. Donc on va commencer par en haut à gauche, la consommation d'énergie. Notre objectif est de réduire de 20% d'ici 2030. C'est l'objectif national. Donc nous nous alignons sur l'objectif national. En dessous, les émissions de polluants, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà nos objectifs, moins 33% pour l'oxyde d'azote, etc., pour arriver à moins 22% également pour l'ammoniac. En haut à droite, vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre objectif est de réduire à 25% d'ici 2030. National, il est plus fort. National, il est à 40% pour arriver à la neutralité totale, donc en 2050. Alors, pourquoi il est moins important pour nous, notre objectif ? Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un territoire où le modèle agricole est quand même très fort, bien sûr. C'est le nôtre, et voilà, on ne peut pas avoir les mêmes objectifs que si nous vivions dans une grande ville ou dans une métropole comme la métropole rennaise, qui, elle, vise ses objectifs. Elle n'a pas les mêmes leviers que nous, bien sûr, par rapport à son territoire. Et puis la production d'énergie renouvelable. Donc au niveau national, c'est 32%, et nous espérons une couverture de 31%. Des besoins de consommation d'ici à 2030. Ce sont des objectifs difficiles, mais atteignables, des objectifs réalisables. Alors, si on passe enfin à la diapo suivante, voilà, donc ça c'est un grand tableau avec tous les thèmes qui ont été abordés donc, lors des rencontres, des copiles, des ateliers. 8 grands thèmes, et donc à la suite de ces rencontres et de ces ateliers, accompagnés bien sûr par des bureaux et des cabinets, 38 fiches actions sont sorties. Donc on va rentrer directement, on va passer à la diapo suivante, on va rentrer directement dans ces actions. Donc il y en a 38, et comme je disais à Isabelle Le Callennec, ces actions, on doit les faire. Alors, mais oui, on doit les faire. Alors on arrivera peut-être pas à toutes les faire, bien sûr, on les réajustera. Certaines sont déjà avancées, certaines sont déjà faites, certaines voilà, seront à réajuster. Mais ça a été arrêté, ces 38 actions, par le Conseil communautaire. Elles sont toutes à mettre en place. Donc on devra les réaliser. Il y aura une évaluation donc, dans 3 ans, une évaluation à la moitié, puisque c'est pour 6 ans. Et je vous proposerai, bien sûr, chaque élu recevra les 38 actions. Alors, je ne vais pas toutes les donner. Certaines sont plus faciles à réaliser que d'autres, soit par la capacité de nos services à faire, bien sûr, parce qu'il faut du temps. Je pensais au plan d'alimentation, par exemple, le PAT. Un plan d'alimentation, c'est très intéressant sur une communauté, mais ça demande clairement un emploi à temps plein. Voilà, on ne l'a pas, hein, clairement. Donc, ce seront des choses qu'il faudra à un moment décider. Et quand je parlais de budget transition écologique, ben c'est là que ça se passe, en réalité. Aussi, hein, parce que plus on sera nombreux, bien sûr, à suivre ces sujets, plus ça avancera. Vous voyez à droite, normalement, j'avais demandé à ce qu'il y ait le nom des agents ou des services, vous verrez que les agents, bien sûr, qui suivent ces dossiers sont nombreux. Ils sont transversaux, ça va toucher pratiquement toutes les délégations et tous les sujets. Donc, avec en particulier, je remercie qu'il soit présent, M. Lécuyer, qui suit ça de très près, et Mme Annabelle Lamy également. Alors, quand je regarde ces premières parties, alors j'ai vraiment écrit très petit sur ma feuille, mais voilà, en tout cas, je vais m'arrêter sur quelques-unes. La première, c'est la AN1, animation et mise en œuvre. Renforcer le poste de CEP pour soutenir les rénovations des bâtiments des collectivités et développer les énergies renouvelables. C'est fait. C'est pas complètement bien fait parce que il y a déjà donc Quentin Lebrigand qui le fait, en effet. Il y a donc la jeune femme dont je vous ai parlé. Elle est pour l'instant en renfort, Isabelle. Donc moi, je souhaiterais qu'elle soit plus pérenne dans son poste, bien sûr. Et puis, je n'oublie pas de dire que pour l'instant, nous avons deux CEP sur le territoire et des territoires comme les nôtres, en Bretagne, en moyenne, ce sont trois CEP. Voilà, je l'ai dit. Et puis, je continue à dire que le CEP rapporte beaucoup plus qu'il ne coûte, puisque c'est lui qui monte les dossiers de ces deux heures. C'est lui qui permet aux communes de récupérer aussi de l'argent. Il a récupéré notre CEP 200 000 euros l'année dernière. Et donc, il y a une chose aussi très importante, c'est que maintenant, quand vous aurez du TSIL, donc la dotation, le TSIL, il faudra qu'il y ait l'avis du CEP. Avant, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, il faut qu'il y ait l'avis du CEP. Donc, il est là pour vous informer, pour vous aider dans la faisabilité également de tous les projets. Mais plus on en aura, mieux ce sera, je le dis simplement. Donc, voilà une action, par exemple, qui est engagée, qui sera à poursuivre. Vous avez la N6, alors je ne sais pas si vous voyez bien de votre place, la N6 ou la N3. La N3, je ne la lis pas bien, mais en tout cas, on peut rapporter ça aux appels d'offres. Et ça, c'est un levier extrêmement fort que nous pouvons avoir, nos collectivités, parce qu'on peut en parler pendant des années sur la transition écologique. Si on n'utilise pas les leviers qu'on a financiers, ça ira beaucoup moins vite. Ça, c'est un levier très fort. Dans un appel d'offres, je mets des critères transition écologique, oui ou non. Le AN6, c'est la même chose, donc intégrer des critères impact écologique dans toutes les aides distribuées. Donc ça, c'est plutôt les fonds de concours, par exemple, qui seraient dédiés, ou des pourcentages dans les appels d'offres. Je continue à en prendre, je vais prendre la AA1, ça va être la page suivante, en vert. La A1, c'est soutenir et développer les démarches existantes. Donc là, ça peut être, par exemple, soutenir une unité de méthanisation, pourquoi pas. Dans notre département voisin, la Mayenne, ils ont des soutiens forts, soit du département, soit de le PCI de Mayenne, qui donne quelques centaines ou dizaines de milliers d'euros pour des unités. Ça peut être un choix également. Le BA1, bâtiment, poursuivre et intensifier les travaux de rénovation énergétique. Alors ça, c'est bien sûr avec la maison du logement. C'est quelque chose qui est déjà entamé, bien sûr. Je continue, là je vais passer au M, mobilité et aménagement, donc ça concerne particulièrement ma collègue Marie-Christine Maurice, avec réalisation d'un schéma directeur cyclable, et puis un plan mobilité à l'échelle de l'agglomération. Ça va commencer. Si je prends le B12, BI2, pardon, biomasse, donc ça c'est développer et valoriser le bois de bocage. Voilà, on est accompagné, bien sûr, avec Braise Bocage. Et j'en parle là parce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place lié à donc la chaufferie de la piscine de la Guerche, qu'on aimerait pouvoir développer une filière de notre côté, même si on sait que la réchauffer a ce qu'il faut pour l'instant. Mais à Gênes-sur-Sèche également, on aimerait pouvoir défilier notre filière propre. Production d'énergie, c'est le PE1. Projet d'une centrale photovoltaïque. Donc, il y a un projet donc, que vous connaissez peut-être, qui est sur Cornillé. Bon, ça, c'est porté par le SMICTOM, un travail avec le SDE. Vous avez le AE1, activité économique durable, améliorer les performances des entreprises avec un CEP entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va réajuster, parce qu'on se rend compte, on les a rencontrés, les entreprises, elles n'en ont peut-être pas besoin, mais peut-être que certains artisans en ont besoin. Donc on va réfléchir pour savoir si on part sur un CEP comme celui-ci. Moi, je pense que s'il y a un troisième CEP, ça serait plus sur la rénovation énergétique. Donc, AE4 également, la mise en place d'une démarche multipartenariale territoire économe, ça, c'est aussi par le SMICTOM, c'est un appel à projet de l'ADEME. Je termine avec voilà, un autre exemple, l'environnement, le EN3, si vous le voyez, suivi et sensibilisation à la qualité de l'air. Donc ça, c'est très important dans le PCAET. Et je vais vous en parler tout à l'heure avec les îlots de chaleur. Non, ce n'est pas les îlots de chaleur, pardon. Là, je voulais vous en parler avec Airbraise, parce que vous avez peut-être vu des petites choses sur Airbraise. Airbraise, nous travaillons avec eux. Le rapport qu'ils ont mis en page dans Ouest France il y a quelques jours, c'est un rapport qui est libre d'accès, en toute transparence. Hein. Airbraise, on y adhère. Et ils nous accompagnent, ils nous aident. Les études sont terminées d'ailleurs sur la gare scolaire. Et on travaille avec eux. Donc ça fait partie de cette action dont je vous parle tout de suite. Cela permet de s'améliorer par rapport au suivi et à la sensibilisation de la qualité de l'air. Voilà, donc je ne vais pas les reprendre toutes, mais ces 38 actions, on va essayer de les faire. Je vous les transmettrai. Tout à l'heure, je vais vous parler comment on peut mesurer ces améliorations. On est accompagné, bien sûr, par Citergy, qui nous donne des points. À chaque amélioration, on gagne des points. Et on a, à la fin, une labellisation. Alors, la mise en œuvre, bien sûr, c'est un comité de pilotage, un comité technique, une équipe projet, une communication régulière envers les maires, bien sûr, bureau communautaire. Et puis le moyen, c'est la labellisation Citergy. Je vais vous en parler à la page suivante. Donc, Citergy, c'est une démarche, une certification, une labellisation. Et ce qu'il y a d'important, parce que là, il y a beaucoup de choses, ce qu'il y a d'important, c'est le côté à droite. Vous voyez Cap Citergy en bas, Citergy et Gold Citergy. Donc, actuellement, Vitry Communauté, qui s'est inscrit dans cette démarche avec... Citergy, qui est notre guide, notre aiguillon, se situe donc à Cap Citergy. Et à chaque fois que nous faisons une bonne action, on va l'appeler comme ça, une bonne action écologique, on monte, on prend des points. On est à 40% ou 40 points. Et on espère atteindre donc les 50%, les 50 points d'ici 4 ans. Et pour ceux qui étaient au bureau des maires, j'ai dit que certains sont au Citergy Gold en France. Et donc, il y a la ville de Grenoble, par exemple, la ville de Besançon, ou également une ville qui est très avancée sur la transition écologique, qui est Dunkerque. Donc, chaque fois qu'on fait une action, on a des points. C'est important pour nous, parce que ça nous permet de mesurer, de structurer les actions et de suivre la mise en œuvre et ensuite de l'évaluer. Sur le diagramme, là, vous avez toutes les thématiques et nos marges de manœuvre. Donc, si on prend, par exemple... la mobilité à 38%, voilà les marges de manœuvre qu'on a, donc à chaque fois, le patrimoine de la collectivité, etc. Bien, et je suis presque à la fin pour vous dire que, bien sûr, toute politique énergétique, politique publique met en lien le bénéfice et le risque. Et donc, nous avons, à chaque fois que nous mettons une action en place, soit des incidences très positives, c'est la première flèche, soit des points de vigilance. Alors, les incidences très positives, il n'y a pas le curseur à placer. Je parlais tout à l'heure du curseur. Est-ce qu'on est dans le plus, dans le moins? Là, on sera dans le plus, hein, quoi qu'il arrive. Plan de mobilité, mode doux, projets architecturaux bioclimatiques, matériaux biosourcés, donc réseau de chaleur, protection de la diversité. On ne se pose pas la question, c'est à 100% plus, hein. Point de vigilance, ben c'est là où on aura à se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, jusqu'où on y va. Ben ça va être tout ce qui va être chaufferie biomasse, que ça provoque bien sûr de la pollution. La méthanisation, voilà, jusqu'où on va. Est-ce qu'on va jusqu'à la méthanisation de Houdon, Cran, qui épand partout et peut-être même sur vos communes, et qui fait une fosse à Argentré-Duplessis, ou en tout cas qui le voudrait, et qui a 76 exploitations? Voilà, on répondra à ça. Moi, je réponds clairement non. Mais et puis, il y a d'autres unités de méthanisation qui sont à taille de ferme, où il y a 9000 tonnes à l'année, et où dont on est sur 250 000 tonnes. Donc voilà, jusqu'où la transition écologique nous permet d'aller quand on place le curseur du bénéfice et du risque. Les gestions forestières, c'est également un point de vigilance, hein, parce qu'il y a de la biodiversité. On aimerait justement créer notre propre filière. Et puis les productions d'électricité, c'est toujours difficile parce que nous avons des soucis de recyclabilité ou de déchets. Je termine avec la dernière diapo qui concerne les prochaines étapes, donc la prise en compte de l'autorité environnementale, la DDTM, la DREAL et la MRAE, si chère à Louis Ménager. Et puis ensuite, il y aura une consultation publique où on finalisera les éléments de réponse à l'État. On prendra en compte l'avis du public. Et ensuite, comme je l'ai dit lors de la première diapo, je termine avec la même chose, on aura une version finale à adopter par le Conseil communautaire, on espère, au printemps 2021. Voilà, j'ai parlé un peu vite, pardon, mais j'avais 14 minutes.
Merci Jean-Noël. Est-ce qu'il y a des remarques, des propositions ?